Le Saint-Esprit est à l'œuvre.
C'est drôle, hein, gars? Hein? C'est
une personne répond. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Voilà. Et il me semble qu'on devrait, comme le chant dit, on devrait à un appel comme ça, on devrait rugir. On devrait dire « Wow! » C'est comme Michel nous faisait dire ça souvent. « Wow! » Parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Oui, too much. Parce que le Saint-Esprit agit, donc quand il le veut, mais il agit souvent de façon tellement imprévue, tellement incertaine, et on est là, incertain nous-mêmes, et on ne sait pas trop, et on ne sait pas comment, et il arrive tout à coup, et snap, il agit. Et souvent, on est là un peu à constater l'œuvre du Saint-Esprit, un peu genre lazy boy, chaise. Ah, OK. Comme si c'était... c'est, on ne sait pas trop. C'est pas sûr. Il me semble qu'il n'y a pas autant de joie à constater l'œuvre du Saint-Esprit qui agit. Hein? je ne suis pas genre à susciter rien juste pour susciter ça, là. Mais moi, j'ai vécu récemment, parmi les épreuves par lesquelles on est passé, j'ai vécu récemment un moment de pardon après 3 ans. Une personne qui a vécu terriblement ce que je lui ai fait subir et qui a, pour ces raisons-là, a fermé des portes relationnelles avec moi, avec la famille et dans toutes sortes de situations. Et c'était extrêmement difficile et on priait qu'éventuellement Dieu allait faire quelque chose. Et à un moment totalement inattendu, alors que on se rend compte, l'Esprit a tellement ouvert la porte et c'était tellement le moment que on a juste tombé dans les bras l'un de l'autre et c'était le temps de Dieu. Wow! Non, mais c'est vrai que c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. Et autant tu rencontres un moment comme ça, Dieu, d'un fois, va te faire rencontrer son travail dans l'invisible. Et ça, c'est wow! Puis à d'autres moments, tu vas rencontrer aussi le mur. Ceux qui ne sont pas encore prêts. Et ça, parfois, ça te frappe un peu plus que l'autre, parce que tu aimerais, moi j'aimerais ça que tout le monde m'aime, j'aimerais ça que tout le monde me dise que je suis fin, puis que je suis gentil, puis que je suis agréable, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais tout ça pour dire que le Saint-Esprit travaille avec, quel mot tu mettrais, le Saint-Esprit travaille avec? Avec moi, oh, c'est bon, le Saint-Esprit travaille avec? Nous, avec, j'ai oublié de partir mon timer. Avec, c'est bon avec moi, mais avec puissance, avec tout le monde, avec joie, et je suis sûr qu'il aime ça. Mon grand-père faisait ça, il cachait des bonbons. Mon grand-père cachait des bonbons dans ses poches de manteau. J'ai déjà compté, je pense. Et il nous disait, va voir là, puis tu sais, le jeu, tu brûles, t'es proche. On jouait ça quand on était petit. T'es proche. Puis quand on arrivait dessus, ben, il était content parce qu'on l'avait trouvé, mais il nous donnait plein d'indices. Dieu est comme ça, il cache ses bénédictions dans le temps. Et il est content quand on y arrive et quand on les trouve et quand on arrive à discerner puis à mettre la main sur ces bénédictions-là qui sont réservées pour nous dans les cieux. Et je loue le Seigneur pour ça, parce que c'est infiniment grand. J'aimerais nous amener à ce qu'il y a. La dernière fois qu'on se parlait, puis c'est toujours un peu difficile. Une prédication, c'est toujours difficile. Et je parlais de Pierre la dernière fois, puis je trouve le parcours de Pierre, puis la marche de Pierre extrêmement intéressante. Surtout, bon, c'est lui qui a, alors que je lisais, tu sais, tu lis plein d'affaires, puis, et là, c'est lui qui a beaucoup inspiré, qui a donné ses pensées à Marc pour l'évangile de Marc. C'est lui, Marc a puisé chez Pierre pour aller chercher toutes ces informations. Puis là, quand tu lis l'Évangile de Marc, ben, tu te dis, ah, ben, si c'est Pierre qui a écrit, ben, j'aurais aussi bien lire un Pierre et deux Pierre, que ça doit aller dans le même, pas mal, dans le même chemin, dans la même direction. Puis évidemment, oui, c'est vrai que c'est le cas. Et c'est intéressant que toutes les transformations que Pierre a vécues suite à son grand, sa grande chute, toutes les transformations que Pierre a vécu suite à sa grande chute ont été incroyables. Et comment, par la suite, je brosse un tableau un peu comme un trailer au cinéma, là. OK? Et comment, par la suite, avec les disciples, ils ont été remplis du Saint-Esprit et Pierre a reçu le pardon de Jésus. Et là, dans cette puissance-là qui tout à coup les enrobe, Pierre prêche. Pierre prêche et on ne le reconnaît plus. On ne reconnaît pas. Pierre prêche et on ne le reconnaît pas. Et il prêche à du monde de partout. Il prêche à des gens qui sont venus en pèlerinage en cette fête-là. Et il prêche à des gens qui viennent d'un peu partout, du nord de la Palestine et entre autres de la Cappadoce, de la Bithynie, de l'Asie. Enfin, il nomme beaucoup de pays dans Acte 3, là, dans Acte 2 et 3. Et des gens qui entendent le message que Pierre donne, un message auquel il prêche que Jésus, le Jésus, le prophète, les prophètes qui sont venus avant ont parlé de lui, ceux qui ont parlé de lui, tous ceux sont morts, les patriarches sont morts, mais Jésus est vivant et il est ressuscité. En gros, dans sa simple théologie, c'est ça qu'il dit. Le Jésus de Nazareth qui a été crucifié, c'est lui le sauveur et c'est lui qui est venu pour te sauver, pour t'apporter le salut. Et sa prédication est tellement puissante que ceux qui sont là disent simplement, et la réponse, « Homme, frère, que ferons-nous? Que devrions-nous faire? » Et je nous pose la question à nous-mêmes, alors que Jésus vient nous interpeller, que Jésus nous interpelle peut-être pas uniquement en fonction du salut ou autre chose. Que ferons-nous? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et Paul va soulever la même question. Que veux-tu que je fasse, moi, devant, je dirais, l'injonction, l'ordre, ce défi-là que tu me lances à moi maintenant, aujourd'hui? Que veux-tu que je fasse? Que ferons-nous? Silence dramatique pour nous permettre d'entrer dans de la réflexion. Parce que je sens dans plusieurs cœurs et yeux que votre réflexion est là. Que veux-tu que je fasse? Ceux qui ont passé Essor, t'arrives là à ces questions-là. Parce que c'est un momentum, ça t'amène dans un momentum incroyable. Et après, ben, t'es comme, que veux-tu que je fasse après? Que veux-tu que je fasse après? Tous ces gens qui ont vécu renversant, on a accueilli une dame qui a fait renversant, elle est enthousiasmée par renversant les forteresses. Et pourtant, on sent dans ces conversations encore des « Où vais-je? Que veux-tu que je fasse? » Et je nous pose la question, je me la pose, Seigneur nous la pose, et toi, que veux-tu que je fasse, Seigneur? comment tu veux m'interpeller dans ce qui me préoccupe? Quelqu'un disait, mes préoccupations, les préoccupations qui m'habitent aujourd'hui sont probablement mes priorités. C'est ce sur quoi j'accorde le plus de priorité. Que veux-tu que je fasse? Et les gens qui sont là, Pierre leur dit, « Hey, pas compliqué, changez de vie. Changez de vie. » Donc, autrement dit, changer de vie, dans ce contexte-là, ça s'adresse au salut. Ça s'adresse au salut. Mais si ça s'adresse à autre chose dans ma vie, c'est peut-être que Dieu te dit, « Pense différemment. Pense différemment. » Es-tu prêt à vivre une transformation complète de là où tu es pour marcher en nouveauté de vie, même en moi, même pendant que tu es en moi? Es-tu prête à marcher en nouveauté de vie avec moi maintenant, à me redécouvrir à nouveau? Ces gens qui étaient là, c'était des Juifs. Ils avaient entendu parler de Dieu. Plusieurs étaient des craignants Dieu. Ils savaient que le Messie probablement viendrait un jour. Quel changement! Et nous autres, on est ici, on connaît Jésus à l'école du dimanche, on connaît Jésus à l'église, on connaît Jésus de par la doctrine qu'on nous enseigne. Et peut-être que Jésus veut se révéler à nous autrement encore que tout ce qu'on conçoit simplement et ce qu'on a acquis dans nos certitudes de foi et de vie chrétienne. Et je ne dis pas que c'est mauvais. Je dis juste que des fois, on les éboye sur les connaissances acquises sur Jésus, alors que Jésus est autre. Comme quand il s'est révélé aux disciples et qui a apparu par la porte et qui a soufflé sur eux et qui leur a dit, « Maintenant, c'est vous qui partez. C'est vous qui allez partir. » Puis là, ils sont là, « Mais comment, on n'a jamais fait ça? » Et peut-être qu'on est assis dans quelque chose qu'on fait, un ministère qu'on fait, des dons qu'on pense qu'on a, et on se sent assis et bien là-dedans. Et tout à coup, Dieu me dit, peut-être que tu devrais songer à aller ailleurs. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Et c'est ça qu'il dit dans le fond. C'est ça qu'il dit dans le fond. Repentez-vous. Ça veut dire changez. Changez. Faites quelque chose. Changez de vie. Et là, tous ces gens-là qui sont là, ben, 3000, c'est quand même du monde, là. Imaginez si on faisait ça ici. Et 3000 personnes qui changent de vie radicalement. Et est-ce qu'on est prêt à être radical dans nos décisions qu'on prend pour lui? Radical pour lui. Pas tout le temps facile d'être radical pour lui. De marcher sur le fil qui me dit, Seigneur, j'accepte d'être bousculé par toi, par la foi. J'accepte que tu me bouscules dans ma vie chrétienne. Ces gens-là partent. Éventuellement, la fête finit et ils partent. Et je n'ai pas l'air d'avoir de texte biblique, mais j'ai un texte biblique pour ça, là. Non, sérieux. Et mon texte biblique, c'est 1 Pierre 1:1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. C'est juste ça. Donc, je vais dire, mais il n'y a pas grand-chose dans ce passage-là. Et pourtant, tout est là. Parce que l'Écriture est tellement riche dans ses détails, dans tout ce qu'elle nous fournit, que c'est incroyable tout ce qu'elle nous amène. Ces gens-là partent, il y avait des gens de la Cappadoce, il y avait des gens de la Bithynie, pas de la Bithybie, mais peut-être pas aussi. Il y aurait pu y avoir des gens de la Bithybie, mais je ne suis pas sûr. Il y avait des gens de l'Asie, du pont Euxien qui est aujourd'hui la mer Noire. Donc, il y avait des gens de partout de cette grande région-là et ils repartent. Ils repartent dans leur région et ils s'en vont là. Et avec le message qui les a transformés, vont aller à leur tour pour répandre cette nouvelle-là qu'ils ont reçue. Mais ce qui est intéressant... Moi, ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est qu'il est décrit à ceux qui sont étrangers et dispersés. À ceux qui sont étrangers et dispersés. dans ces régions-là. Et c'est probablement mon... Je pourrais dire que c'est peut-être un deuxième point. Je savais que j'en avais un premier, mais en tout cas, c'est pas grave. Nous sommes, nous, autant que nous sommes ici, et plusieurs le vivent de façon plus réelle, étrangers et dispersés, venant de loin, venant de loin, et portant en vous, avec vous, la bonne nouvelle de Christ. Certains, eux, ont fui, et parmi ceux qui sont dans ces grandes régions-là, il y a ceux qui ont entendu le message de Pierre, mais il y a ceux également qui ont fui la persécution qui est venue un peu plus tard et qui ont dû fuir pour aller vivre sous de meilleurs cieux, qui ont fui pour aller vivre dans de meilleurs endroits et de façon à pouvoir ainsi vivre leur foi d'une manière plus sereine. Toutefois, ce n'est pas nécessairement arrivé là, parce que c'était également dans l'Empire romain, et ce n'est pas nécessairement là qu'ils ont pu vivre. Toutefois, Pierre leur écrit. Pierre décide éventuellement de leur écrire et de leur dire, « Wow! Ce que vous êtes, vous, étrangers et dispersés, wow! » C'est ça qu'il dit. « Vous portez un héritage, et c'est ça qu'il nous dit un peu avant, vous portez un trésor précieux, un héritage incroyable, des enfants de Dieu uniques. » Et ça me rappelle un des défis qu'on s'est fixé en tant qu'Alliance. Nous sommes une mosaïque d'enfants de Dieu en santé. En santé et qui veut dynamiser les autres générations à également être, à jouir du royaume de Dieu. Et j'aimerais juste en profiter pour louer le Seigneur pour la mosaïque de cette Église, pour l'héritage que la mosaïque de cette Église apporte à l'Alliance, pour que chacun d'entre vous ici apporte à la couleur de cette Église. C'est ça que Pierre nous dit. Vous n'êtes pas des étrangers. Vous êtes élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin de devenir obéissants et de participer à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Participer à l'aspersion du sang de Christ, pour moi, ça veut dire continuer l'œuvre de propagation de la bonne nouvelle partout dans le monde. Partout dans le monde. Et c'est ce plus que nos dispersés, si je peux dire ça comme ça, que nos étrangers, si je peux dire ça comme ça, parmi nous, apportent avec eux. La force de l'héritage du précieux trésor de Christ en eux, qui vient contribuer au message de Christ dans le monde. Wow! Et la Cappadoce, ben c'est ça. La Cappadoce, c'est des gens qui, tout à coup, Pierre leur écrit et leur dit un peu plus loin, rejetez donc. Pas facile de vivre dans une société. C'est pas facile de vivre dans une société qui, dans laquelle, tout à coup, tu te sens bien. Dans lesquels, tout à coup, tu es moins persécuté. Dans lesquels, tout à coup, tu peux t'asseoir un peu plus, rechercher la richesse que peut-être tu n'avais pas dans ton pays ou autre. L'aisance, c'est pas facile, ça. Et tout à coup, le christianisme ou la pratique de la foi devient aisée. Devient plus souple, devient plus flexible, devient plus mou, devient plus doux, devient moins dynamique et autres. On parlait avec une dame, justement, elle disait ça, elle dit, la société d'aujourd'hui, que c'est difficile d'y vivre. c'est difficile de vivre dans la société d'aujourd'hui. Avec les lois qui passent, qui semblent limiter pour certains les droits que plusieurs prennent pour acquis, avec toutes sortes de lois qui commencent à ressortir un peu partout et qui, encore une fois, visent à brimer l'expression religieuse, l'expression de la foi dans la société actuelle. On se demande à quel point nous, en tant que croyants, on va pouvoir endurer tout ça sans éventuellement casser. Et je me dis, bon, OK. Et Pierre dit aux Cappadociens, je ne sais pas si on les appelle de même, aux Cappadocéens ou quelque chose de même, et il leur dit, écoutez, vous, d'abord, rappelez-vous aux Asiciens aussi, rappelons-nous que nous sommes précieux. Ça, là, c'est la base. Rappelons-nous que nous sommes précieux. Rappelez-vous que vous avez un héritage qui ne peut pas se flétrir, qui ne peut pas se perdre, qui ne peut pas jamais se perdre dans les cieux. Rappelez-vous de ça. Rejetez ça, la malice. Je suis au chapitre 2, là. Je véhicule. Rappelez-vous, rejetez la malice, la ruse, la dissimulation, l'envie, la médisance. Et comme un petit bébé désire manger et se nourrir du lait, vous aussi, nourrissez-vous de la parole de Dieu. Désirez comme des enfants nouveau-nés. Il ne dit pas qu'on est des enfants. Il dit comme un enfant va désirer la parole. Vous désirez se nourrir de lait. Vous aussi, faites-le. La première base, celle de la nourriture qui vient donner la force de continuer alors que c'est difficile. Rejetez tout ça, mais désirez. Approchez-vous de lui. S'approcher du Christ. Maintenant, s'approcher, c'est comme un... Il y en a qui... Moi on a un feu en arrière de chez nous, un foyer. Et s'approcher du feu, c'est fun, mais parfois, ça chauffe trop. Parfois, il y a de la fumée. Parfois, il y a des tisons. Et ce n'est pas toujours agréable. Moi, j'avais quelqu'un comme ça que je connaissais qui s'habillait complètement pour éviter de trop être absorbé par toutes les choses. Quand on s'approche de Jésus, les scories, si je peux dire, les saletés, les choses qui émanent vont devoir éventuellement s'éloigner, vont devoir le quitter éventuellement. Parce que Jésus demande de nous de se conformer à son image, à lui-même, de façon à ce qu'on puisse marcher avec lui. S'approcher de lui, c'est devenir près d'eux, encore plus proche d'eux. Mais trop souvent, et combien de fois ça m'est arrivé, de m'approcher de mes scénarios sur ce que je croyais qui allait arriver. M'approcher de ce que je conçois ou de ce que je pense qui va arriver. Plutôt que de le confier au Seigneur, je scénarise constamment. Vous comprenez ce que ça veut dire, scénariser, hein? Se faire une histoire, se faire un... Et des fois, ce n'est pas mauvais, parce que des fois, ça nous permet... Et des fois, c'est bon, parce que ça me permet d'anticiper comment je vais réagir. Ça me permet d'anticiper comment je vais réagir. Puis quand ça arrive, bien, je suis prêt. Mais d'un coup, ça n'arrive pas de même. Souvent, ça n'arrive pas comme ça. Et au lieu de m'approcher du Seigneur et de lui confier, je me confie dans mes scénario. Et là, ma vie devient difficile à vivre, très difficile à vivre. Approchons-nous de Jésus. Il leur dit ça, Pierre leur dit ça. Désirez la parole, approche-toi de Jésus. Et un dernier point qui dit, édifiez-vous. Ça, c'est pas fait. Je voyais tout à l'heure, en venant à l'église Sainte-Suzanne, je voyais les gens qui se dirigeaient vers l'église. Là, je me disais, je me souviens quand j'étais dans une autre pratique d'église, la différence majeure, la différence principale qu'il y avait et que je sens encore qui est là, c'est que des gens, j'espère que ce n'est pas ici, comme ça ici, mais je vais le verbaliser, c'est rare, les gens ne vont pas à l'église en communauté. Ils ne vont pas à l'église ensemble. Les gens dans cette église-là, ils vont individuellement, s'assoient, reçoivent et partent. Pour nous, l'Église, le « édifiez-vous », l'Église est un corps. Et la plus grande et un des plus grands termes révolutionnaires que Jésus a dit, on le retrouve dans l'Ancien Testament aussi, mais c'est « les uns les autres ». Aimez-vous les uns les autres et tous les uns les autres. Et le « édifiez-vous », »,« bâtissez-vous », »,« encouragez-vous », c'est ça que le mot veut dire, « les uns les autres ». Nous montre qu'on ne peut pas être ici individuellement. Et c'est ça que Pierre dit à eux. Vous allez vivre la persécution, vous allez en vivre la persécution. Ça ne sera pas facile de vivre dans la société, mais gardez-vous centré, mais vivez ensemble. Vivez-le ensemble. Vivez-le en église, en communauté. Approchez-vous de lui. Approchez-vous de lui, mais afin de vous édifier les uns les autres. Trop souvent, on n'arrive pas. Non, on trouve l'édification. Moi, je tiens à le dire, personnellement, dans les choses qu'on a vécues, j'ai trouvé la guérison et on a trouvé, je veux dire, lisez-moi, la guérison dans la communauté. La guérison, quand on peut vivre des choses difficiles, se trouve dans la communauté. L'édification dans la communauté. Mais pour qu'on puisse la trouver dans la communauté, il faut que j'aie, moi, l'espace pour le dire à ma sœur, pour le partager à mon frère, et pour que lui me dise, « Je vais prier avec toi. » C'est ça, la communauté. Est-ce que nous avons l'espace pour nous dire « Je souffre et j'ai besoin de vos prières » ou est-ce que et peut-être que là, en ce moment, vous vous refermez dans votre espace siège et vous vous dites « Le message va finir et on va pouvoir s'en aller ». Je fais des blagues, là. C'est des blagues, là. Okay? Mais parce qu'on entend toutes sortes de prédicateurs ou de pasteurs qui disent toutes sortes d'affaires. Mais moi, il me semble que la communauté, l'Église est l'endroit où on devrait pouvoir vivre ça comme ça. Trouver les moments. Est-ce que je peux dire à mon frère, prie avec moi parce que je souffre présentement et j'ai besoin que tu pries avec moi et qu'ils me disent « Oui, je vais prier avec toi. Je ne me sens pas jugé, je ne me sens pas... » Mais c'est difficile, c'est pas facile, c'est difficile. Et Pierre leur dit ça. Vous allez succéder, Cappadociens. Vous allez réussir, pas succéder, vous allez réussir parce que ce message-là que vous avez reçu avec joie, « Frère, que ferons-nous? » Vous êtes parti vers chez vous, le cœur rempli de joie, et parfois sous la persécution. Vous vivez dans une société qui est difficile à vivre, mais rappelez-vous, vous êtes des pierres vivantes. Vous êtes des pierres vivantes. Vous vivez grâce à l'un et à l'autre. Approchez-vous de lui. Et savez-vous, je cherchais pierre vivante dans Google. Savez-vous ce qui m'a amené? Pierre vivante. Écoutez bien ça. Allez, ils attendent. Oui, je... Pierre vivante, c'est... Une pierre vivante, c'est un récif corallien. C'est une petite pierre dans les mers. Et je résume, là, je ne suis pas scientifique, là, je ne suis pas Yannick Villedieu, là, ou, okay, je résume. Là. C'est une petite pierre que l'on utilise pour placer dans les aquariums et qui sert à purifier l'eau pour que les poissons puissent y vivre. Sommes-nous des pierres vivantes là où nous sommes? Servons-nous à purifier autour de nous? C'est fort comme définition de cette petite roche-là, hein? C'est fort, hein? En parallèle avec nous. Moi, je me dis, waouh, j'ai hâte de leur dire ça. Non, mais c'est spécial. Cette petite pierre-là, elle existe vraiment. Ils mettent ça là. Puis là, écoutez, l'azote, les cibles et ça, je ne sais pas les termes, là, mais je sais que tu vas aller chercher, toi. Je sais que tu vas aller chercher parce que tu aimes ça. OK. Mais c'est ça qu'a fait. Elle purifie l'air ambiant, l'eau, de façon à ce que les poissons puissent vivre. Et c'est ça que nous sommes appelés à faire dans la société, à purifier autour de nous. Et quand la société va mal, si nous, on se retire et qu'on n'est pas là, bien, ça va encore plus mal. N'est-ce pas? Donc, on devrait être des pierres vivantes, des petites roches qui purifient. Puis en plus, elle a une autre fonction. Elle a une autre fonction qui est drôle aussi. Elle a une autre fonction. C'est qu'elle n'est pas seulement, elle purifie, mais elle est décorative. Elle est décorative. C'est-à-dire que, non, c'est drôle, mais pas drôle. Décorative parce que le chrétien, dans le milieu où il est, il enjolive. Il rend son milieu encore plus beau par ses valeurs. Hein? C'est vrai? C'est vrai! C'est vrai, il rend son milieu encore plus beau. Et je vais me vanter, là, OK? Je vais me vanter, là, mais prenez-le pas mal, OK? Je vais dire comme Paul, prenez-le pas mal. Mais ma femme a son travail. Elle enjolive son travail. Et on lui a dit, son patron supérieur immédiat et l'autre lui a dit, tu amènes une lumière. Il a dit du positivisme. Mais du positivisme, dans notre langage, c'est une lumière dans le milieu où tu es. Et elle a reçu 100% dans les clients mystères. Alors, elle n'a pas voulu que je dise ça, je n'ai même pas dit que je le dirais. Mais il y a eu deux clients mystères qui sont passés, un au téléphone et un en direct, live, sur le terrain. Et elle a eu 100% de la part des deux, de par son attitude. Est-ce que nous voulons être des petites pierres vivantes dans nos milieux ou est-ce qu'on chiale après notre patron ou est-ce qu'on chiale après notre environnement? Frères et sœurs, Pierre, dans son parcours, a su accompagner ces gens de la Cappadoce de loin comme ça. Il leur écrit de loin comme ça. Il est à peu près 3000 kilomètres d'eux. C'est quand même un bon petit bout. Il est à Rome, puis les autres sont à l'autre bout. Et c'est comme à écrire à Vancouver, puis aller porter une lettre. C'est long à aller à pied pour aller en bateau, mettons un peu. Mais c'est loin, là. C'est loin. Et il va leur porter ça Et ça s'en va de même et il les encourage. Vous m'avez entendu. Eux, certains d'entre eux ne le connaissent que par le message qu'il a donné une fois lorsqu'il a dit, et vous, ce Jésus que vous avez crucifié, il est vivant. Et leur fabuleuse réponse, que ferons-nous? Leur réponse, que ferons-nous, a stimulé toute une série de dominos qui se sont affalés les uns les autres. Et savez-vous quoi? Au fil des siècles, et récemment, les découvertes archéologiques ont découvert dans le secteur de la Cappadoce, la Bithynie, ce secteur-là, plus de 3000 chapelles dans le secteur qui est là-bas. Plus de 3000 églises qui ont été placées dans ce secteur-là de la Cappadoce. Parce qu'à un moment donné, quelqu'un leur a dit, « Et toi, que feras-tu? » Et qu'ils ont répondu, qui ont appris à vivre dans leur société qui est si difficile en étant des pierres vivantes. Frères et sœurs, que ferons-nous? Que ferons-nous? Il me semble qu'on ne croit pas. Que ferons-nous? Puis je pense que mon temps est fini. 2 minutes 42. J'ai encore 2 minutes 42. Que ferons-nous? Et des fois, c'est du sacrificiel et on le sait. Des fois, c'est du sacrificiel et on le sait. Et des fois, on n'est pas prêt. Et des fois, on n'a pas envie. Et des fois, on veut prendre plus de temps pour y réfléchir. Puis c'est correct aussi. Dans un sens, c'est correct parce que le Seigneur ne reproche pas ça. Moi, j'ai trouvé le Seigneur. Ça m'a pris 5 ans à répondre à l'appel du Seigneur dans ma vie. Et il ne me l'a pas reproché. Mais parfois, il va nous dire, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends de plus? Qu'est-ce que tu attends au juste? Frères, sœurs, que ferons-nous? Que ferons-nous? Voulons-nous être une communauté de vie qui se soutient les uns les autres, qui s'édifie l'un l'autre comme des pierres vivantes et qui partage ensemble, enjolive la vie de l'un et de l'autre et de la communauté, et qui en plus, non seulement enjolive, mais purifie autour en, l'un et l'autre en disant, « Hey, merci de me partager ta souffrance et je vais la prier avec toi. » Parce qu'en tant que communauté, c'est ça que Dieu veut pour nous. Je vous le dis. Peut-être, Seigneur voulant, je reviendrai là-dessus avec mes 5 points sur la guérison dans la communauté. Comment la guérison ne se trouve pas ailleurs qu'auprès des frères et des sœurs qui nous entourent, aussi imparfaits qu'on puisse être, elle se trouve là. Père céleste, Seigneur Jésus, Dieu Saint-Esprit, que ferons-nous? Que m'invites-tu à faire? Et dans l'imperfection de mes paroles, Père Céleste, tu nous invites, tu m'invites à radicalement te suivre. Comme ces Cappadociens, ces gens d'un peu partout, Père, que ferons-nous? Que ferons-nous? Et Père, nous voulons ensemble, individuellement, collectivement, nous incliner et te poser la question. Qu'est-ce que je devrais, peut-être encore une fois, abandonner, t'envoyer? En sachant que tu es là, en sachant qu'en m'approchant de toi, en désirant ta parole qui est comme un lait pour un bébé, en, en, en édifiant, en trouvant auprès de mes frères et sœurs le conseil, la réponse parfois, que tu vas me montrer ce chemin que tu souhaites me voir prendre. Je ne sais pas. J'ai peur, je ne sais pas. Je doute. Mais je sais que tout se vit par la foi et que tu agis dans cet invisible qui devient visible et que mes scénarios n'y changeront rien, n'y ajouteront rien parce que toi, ton plan est parfait et c'est ce que tu veux pour chacun de nous. Accomplis ton plan parfait pour chacun de nous. Par Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, celui qui est vivant, qui est ressuscité, qui, lui, est la pierre vivante. Amen.